son nom s'appelle Nicolas Sarkozy. Et il a été élu, et cette semaine, c'était partout dans les médias, comment il a été intronisé en grande pompe au palais présidentiel à Paris, sous les regards de la France et sous les regards du monde. Et quand il était au palais présidentiel, on lui a donné tous les honneurs, on lui a donné ce magnifique collier présidentiel. Le président sortant l'a amené dans les endroits les plus secrets de ce palais présidentiel, lui a communiqué les codes secrets des armes atomiques de la France, faisant de M. Sarkozy un homme absolument très important et très puissant en Europe. Je regardais ça puis je me disais, comment ça se fait, Jésus, lui, il n'en a pas eu de si beaux honneurs comme ça quand il est arrivé, des beaux colliers comme ça. Tout ce qu'on lui a donné, c'était une couronne d'épines. Jésus, le roi des rois, a jamais marché en grande pompe sur les Champs-Élysées. Pourtant, on va lire ce matin dans Luc au chapitre 19 qu'à la fin de son long voyage qui a mené, où il a enseigné les foules et qui l'a mené à Jérusalem, la ferveur royale, j'allais dire, du roi des rois était à son apogée. Jésus avait fait des miracles. Il avait enseigné, il avait entré dans Jéricho, guéri des aveugles, et là, même un Zachée, un chef publicain, s'était converti, puis avait été transformé. Et là, il s'avançait vers Jérusalem, et les gens croyaient que le royaume de Dieu, le royaume messianique, terrestre de Jésus-Christ sur la terre, allait s'établir tout de suite. Luc chapitre 19, verset 11 dit, « Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. » Les foules anticipaient que Jésus allait instaurer à l'instant le royaume de Dieu sur la terre. Et ils l'ont cru aussi. Jésus est entré à Jérusalem. On regarde un peu plus loin dans Luc chapitre 19, versets 37 et 38. Il s'approchait de Jérusalem. Puis en s'approchant de Jérusalem, les gens le recevaient comme le roi des rois. On a commencé à couper des branches de palmiers, à les placer sur le sol. On l'a assis sur un âne qui était une prophétie du roi qui entrait à Jérusalem. Lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jésus allait entrer à Jérusalem et la ferveur royale était à son apogée. Mais Jésus, dans sa marche vers Jérusalem, va calmer les ardeurs de la foule par une parabole dans laquelle il va corriger leur conception, leur fausse conception du moment, puis va les inciter à continuer eux-mêmes à chercher le royaume de Dieu, à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, en faisant valoir les ressources que Jésus avait mis à leur disposition, jusqu'à ce qu'ils reviennent bientôt et établir son règne millénaire sur la terre. Ce matin, on va considérer cet enseignement de Jésus, non seulement pour comprendre cette parabole des mines, mais aussi pour nous motiver à l'appliquer ce matin. Vous avez trouvé Luc chapitre 19. Nous allons lire les versets 11 à 27. Et on va demander à Dieu que nous puissions, comme dans toute parabole, reconnaître Dieu et nous reconnaître, pour pouvoir vivre selon ce que Dieu nous appelle. Prions-le quelques instants. Seigneur notre Dieu, merci encore pour la grâce, le privilège que nous avons de t'avoir comme roi des rois. La joie de chanter que nous sommes ton armée, que tu marches devant nous. Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas rester assis derrière, par exemple. De marcher avec toi fièrement. De vivre avec les mines que tu as placées dans nos vies. Et Seigneur Dieu, t'honorer de façon fidèle jusqu'à ce que tu reviennes. Que tu réalises et reconnaisses le ministère de tes enfants et que tu les récompenses au-delà de toute espérance. Alors Seigneur, dirige-nous encore dans ta parole. Donne-nous le courage de la vivre. Parce qu'on te prie encore pour la gloire de Jésus, pour l'avancement de son règne, pour notre bien-être. En ton nom, nous te prions. Amen. Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et lui dire, « Seigneur, il y a 10 mines! » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. C'est la parabole des mines que le Seigneur a prononcée. Une parabole, c'est toujours une histoire qui colle à la réalité des gens qui l'entendent. Pour nous, des fois, il y a des éléments, on dit « Oh, comment ça colle à la réalité? » Mais ça colle à la réalité des gens. C'est jamais une histoire farfelue que Jésus raconte. La parabole est toujours une histoire terrestre avec une portée céleste. Une histoire à deux niveaux. Et l'histoire de cet homme de haute naissance était tout à fait bien connue à Jéricho. À Jéricho, dans la même génération, il y avait Archélaüs. Archélaüs était le fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand est celui qui était au contrôle de la Palestine quand Jésus est né, qui est mort dans les premières années de la vie de Jésus. Et quand Hérode le Grand est mort, Archélaüs, son fils, est parti à Rome pour être investi de l'autorité royale et devenir tétrarque de Judée. Archélaüs avait une très mauvaise réputation. Alors, quand Archélaüs est parti à Rome, il a été accompagné d'une ambassade juive qui s'est objectée, mais sans succès, à la nomination d'Archélaüs comme roi de Judée. Et Rome a nommé Archélaüs comme roi. On le voit dans Matthieu chapitre 2, le verset 22. Et Archélaüs, quand il est arrivé en Israël, il s'est installé justement à Jéricho. Il a fait construire un palais et il a fait tuer tous les opposants à son règne. Archélaüs a été un si mauvais roi, il a régné très peu de temps et Rome a décidé que si c'est des gars comme Archélaüs qui sont rois de la Judée, on va enlever des rois puis on va mettre des procurateurs à la place, on va mettre des gouverneurs. Et à partir de la démission de Archélaüs, Rome a établi des gouverneurs. Quand Jésus a été crucifié, c'était plus un roi qui était en Judée, c'était un gouverneur. C'était Ponce Pilate, gouverneur ou procurateur de Judée. Ponce Pilate était le 5e gouverneur de Judée. Alors, quand Jésus parle la parabole, puis dit, il y avait un homme de haute naissance qui est parti pour aller s'investir, puis il y a des concitoyens qui ont dit, non, on ne veut pas qu'il règne sur nous autres. Ça correspondait très bien à ce qu'il venait juste de vivre dans les 20 années qui précédaient. Bien entendu, dans la parabole, ce n'est pas d'Archélaüs que Jésus voulait parler, c'était de qui? Qui était cet homme de haute naissance? C'était lui-même. C'était Jésus lui-même. Cet homme de haute naissance, qui, après qu'il sera rejeté par Israël, va monter au ciel. Il va s'asseoir à la droite de la majesté divine. Il va être investi de l'autorité royale. Puis après ça, il va revenir pour établir son royaume sur la terre. Cet homme de haute naissance, quand il vient sur la terre, il y a des serviteurs en attendant. En attendant qu'il, après qu'il soit parti, en attendant qu'il revienne, il va avoir des serviteurs, il va les encourager. Ces serviteurs sont ceux qui ont suivi Jésus pendant les 3 ans. Des disciples, c'est des personnes qui suivent puis qui apprennent de Jésus dans le but de lui ressembler puis de faire pareil. Alors, plusieurs de ces disciples ont suivi Jésus à travers ces années-là avec de bonnes dispositions. Tandis que d'autres ont suivi Jésus parce que c'était le fun, parce qu'il les nourrissait de temps en temps, parce qu'il leur faisait du bien pour leur intérêt personnel. David prêchait l'autre jour sur « Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? » Est-ce que c'est quand tu suis juste pour tes intérêts personnels? Puis il y en avait de ces soi-disant disciples qui suivaient pour leur intérêt personnel. Jésus, il en appelle 10 dans l'histoire. L'homme de haute naissance en appelle 10. Un échantillon de toutes des autres disciples. Et 3 seulement plus tard vont avoir à rendre compte. Il va demander des comptes à ses serviteurs-là. Les concitoyens qui sont là sont les Juifs qui ne veulent pas de Jésus comme roi. Parce que quand Jésus a marché pendant ces 3 années, il y avait des gens qui l'applaudissaient, puis il y en avait des gens systématiquement qui ne voulaient pas avoir Jésus comme roi. Ils l'ont suivi, mais ils l'ont suivi pour le piéger. Ils l'ont suivi tout le temps pour le discréditer. Ils l'ont suivi tout le temps pour l'accuser, particulièrement les dirigeants religieux juifs. Et c'est eux, un peu plus tard, on le voit dans Jean chapitre 19, versets 14 et 15, devant Ponce Pilate, qui vont dire, « Nous n'avons de roi que César. On ne veut pas que lui règne sur nous. On n'a pas d'autre roi que César. » Ponce Pilate disait, « Crucifierai-je votre roi? Qu'est-ce que votre roi a fait de mal? » Et ils vont dire, « Non, 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 on ne veut pas l'avoir lui pour régner sur nous autres. On n'a de roi que César. » Mais l'homme de haute naissance, avant de partir, donne la responsabilité à ses serviteurs. Il appelle ses serviteurs puis il leur donne 10 mines personnelles. Pas pour faire sauter les mines personnelles. Il faut juste comprendre que les mines personnelles qu'il y a là, c'est pas ce que l'on entend aujourd'hui qui saute un peu partout là. Non, non, il y a 10, c'est une valeur en argent. C'est pas des mines personnelles pour faire sauter, c'est des mines personnelles pour faire valoir qu'il mentionne. Et il a dit, je vais vous demander des comptes sur comment chacun a fait valoir sa mine personnelle. Une mine du temps de Jésus, ça valait à peu près 3 mois de salaire. Alors, 10 mines, pour certains, ça valait à peu près, je ne sais pas moi, 100 000 $. Ou s'il y avait juste chacun une mine, je ne sais pas si c'est clair, s'ils en ont chacun eu une ou s'ils en ont chacun eu 10, mais j'ai l'impression qu'ils en ont chacun eu une. Une mine, ça valait 3 mois de salaire. Une mine, ça valait 10 000 $. Grosso modo, aujourd'hui. Une belle somme de départ. Je pars, puis je te donne un montant pour que tu puisses partir. Ce n'est pas suffisant pour vivre toute la vie avec ce 10 000 $-là, mais c'est très intéressant pour commencer à t'établir, puis commencer à avancer en affaires ou pour commencer à faire fructifier ces choses-là. C'est un bon. On ne part pas à zéro, on part avec 3 mois de salaire que je te donne, puis il fallait fructifier. Chacun part alors. L'homme de haute naissance part et chacun reçoit entre les mains une belle opportunité de départ. Chacun reçoit la pleine liberté d'action. Fais-les valoir. Je les place entre tes mains. Fais-les valoir maintenant. Chacun a la responsabilité personnelle de faire prospérer les ressources disponibles. Et chacun aura à rendre compte de son activité dans le futur. Aimeriez-vous ça, un contrat comme ça? Je pense à ma fille qui va se marier bientôt, là. Puis si je disais, tiens, là, pour partir, un petit 10 000 $, ça va t'aider à partir. Je suis sûr qu'elle dit, hey, c'est pas ce qu'elle va gagner toute sa vie, mais tu sais, ça ferait un petit départ hein, pour partir. Puis là, tu dis, garde, no strings attached, rien d'attaché. C'est juste pour je te donne ça, puis je veux que tu partes sur un bon pied, puis fallait valoir, puis dans 25 ans, je viens de voir ta maison. Je viens de voir qu'est-ce que tu as fait avec ça. Un bon départ. Et dans l'histoire, l'homme de haute naissance va être investi de l'autorité royale, et il revient, et il fait la rétribution. Il est maintenant roi. Il a maintenant toute autorité sur terre. Et il fait la rétribution de ses serviteurs. Le premier, lui, il a bien compris qu'il était, comme disait David ce matin, un gestionnaire des biens de son maître. Est-ce qu'il a dit, Seigneur, ma mine a profité tant? Avez-vous vu dans le texte? Il a dit, Seigneur, ta mine. Ah, c'est à lui. Il a juste investi dans le serviteur. Ta mine, Seigneur, a récolté 10 mines. Ce serviteur-là, il a pris la mine et il l'a investi avec courage. Ce jeune homme, cet homme, je ne sais pas si c'était jeune ou c'était vieux, mais il a commencé comme ça, il a pris des risques avec sa mine. Avec sa mine, il a donné le meilleur de ses capacités à travers le temps. Avec sa mine, il l'a investi, puis il est demeuré fidèle. Puis il est peut-être devenu... Pas millionnaire, mais si c'est 10 fois plus, ça fait 100 000 $. Ton 10 000 est devenu 100 000. Ou si c'était ton 100 000, c'est devenu 1 000 000. Mais je l'ai fait prospérer. Sa mine a multiplié par 10 la mise de fonds initiale. Et qu'est-ce que le maître fait? Bien évidemment, il reconnaît le bon service de son fidèle serviteur. Et j'aimerais que vous remarquiez que ce fidèle serviteur-là, avec son 10 000 piastres, qui est devenu 100 000 piastres plus tard, il est content de ça. Et Jésus lui dit, à cause de cette merveilleuse affaire, tu as passé de 10 000 à 100 000, c'est bravo. Mais savez-vous qu'est-ce que je vais te donner comme récompense? Je vais te donner la gestion de 10 villes. C'est-tu un peu plus ça que 10 000 piastres? Ou immensément plus que 10 000 piastres. Voyez-vous la différence? Tu as été fidèle avec peu de choses. Qu'est-ce que c'était 10 000 piastres pour l'homme de haute naissance? Mais tu as été fidèle avec le petit peu que je t'ai donné. Et parce que tu étais fidèle avec le petit peu que je t'ai donné, je vais te donner le gouvernement de 10 villes. Peut-être que Zachée était proche, là, parce qu'il venait juste, vous savez, ce publicain-là qui était hyper riche parce qu'il était responsable de combien de villes? Une, Jéricho. Ah, puis il était le riche, puis il était connu pour être le super riche. Et Dieu lui dit, parce que tu étais fidèle dans ces petites affaires-là, là, parce que tu as investi, tu as été de l'avant avec le petit peu que tu avais, tu as foncé, tu as risqué, tu as été fidèle, tu as mis ton cœur. Je te donne le gouvernement de 10 villes. Une récompense au-delà de toute espérance. Le deuxième arrive, puis il reçoit un traitement similaire. Lui, sa mine en a valu 5, et le résultat est exactement pareil pour le Seigneur. Même si les résultats finaux n'étaient pas les mêmes, le maître a reconnu chez ce deuxième serviteur-là son effort, sa fidélité, pas nécessairement le résultat final. Tu as été fidèle, tu as travaillé fort, et tu en es arrivé à un résultat, bravo. 5 mines, je vais te récompenser de façon incroyable. 5 villes vont être sous ta direction. Le troisième, le texte nous dit, s'est avéré un serviteur inutile. Jésus l'appelle un serviteur méchant, au verset 2. Méchant serviteur. Parce qu'il avait pris la mine. Puis il a dit, 10 000 piastres, c'est dangereux ça, si je me sens à mauvais endroit, il peut tout le perdre, hein? puis je ne sais pas, là, ce que je vais faire avec ça, je vais le cacher, je vais l'envelopper dans un linge, je vais le cacher, je vais le ressortir peut-être d'un mauvais jour, à un moment donné, ça pourrait être utile, ça serait utile un petit 10 000 à sortir de temps en temps, hein, si jamais les affaires vont mal, mais je le mets de côté. Je l'enveloppe d'un linge, je le mets dans terre. Il n'a pas pris au sérieux la responsabilité que l'homme de haute naissance lui avait donnée en lui présentant cette mine. Il lui a présenté la mine pour la faire valoir. Puis il a dit, je vais revenir plus tard, puis je vais regarder comment tu l'as fait valoir. Je mets à ta disposition des bienfaits et je te demande de le faire valoir pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce troisième-là, il n'a pas pris au sérieux la responsabilité que le maître lui avait assignée. Il a soigneusement mis de côté l'investissement du maître, puis il n'a rien fait en espérant que si je fais rien mal, ben tout tournerait bien. Et sa paresse a manifesté clairement son manque d'intérêt, son manque d'amour pour son maître. Et même ses paroles qu'il va dire au maître vont manifester en réalité le manque de respect, le manque d'honneur que ce serviteur aura pour le maître. Il dit, finalement, j'ai fait ça parce que c'est ta faute. Je sais que t'es un maître dur. Je sais que t'es un maître impitoyable. Je sais que t'es un maître injuste. Un peu comme l'aîné dans l'histoire du fils prodigue, là. Tout était à sa disposition, mais il n'était pas prêt à servir, il n'était pas prêt. Son père était, il devait être dur, injuste. Mais on a le même phénomène ici. Jésus ne dit pas que c'est vrai. Il dit, moi, de juger sur tes paroles. Si tu pensais que j'étais si dur que ça, puis que je récoltais là où je n'avais pas semé, mais la moindre des choses, ça aurait été que, pas que tu le mettes dans terre, mais que tu le mettes d'un endroit sûr, mais aller d'une banque, tu vas avoir au moins l'intérêt. Je te prends tes propres paroles. Tu étais paresseux. Tu as manqué d'amour, de respect, d'honneur envers ton maître. Et le maître dit, retire-lui ce que j'ai mis à sa disposition, puis clenche-le avec ses ennemis. Le verset 27 est dit, au reste, amenez ici mes ennemis. Au reste, le mot littéralement plein, ça veut dire en plus. En plus de ça, amenez-moi les ennemis. Alors, le mauvais serviteur, il est placé dans la même catégorie que les ennemis. Les ennemis, ceux qui se sont opposés à cet homme de haute naissance, ceux qui se sont opposés au royaume de Dieu, il le dit dans une phrase simple, mais ils vont être certainement châtiés. Tuez-les en ma présence. Séparez-les de moi. C'est la mort éternelle. C'est le châtiment éternel. C'est l'enfer qui est réservé à tous ceux qui n'auront pas reconnu, tous ceux qui n'auront pas vécu sous la seigneurie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Faire comme ce serviteur inutile. Tout ce que Dieu met à ma disposition, je le mets dans terre. Je l'enveloppe. Je fais rien de mal. Je fais rien de bien. Je mets ça en terre. Tout ce que Dieu met à ma disposition, je dis, ben, comme on disait à l'école dimanche matin, c'est de ma faute. C'est moi qui est bon. Je ne vais pas remettre de la gloire à personne. C'est parce que je travaille fort. C'est parce que je suis bien. C'est parce que c'est ma mine à moi. Que je suis bon avec, puis que je réussis avec. Qu'est-ce qu'on a à faire pour aller en enfer? Rien. Le salut est pour ceux qui ont personnellement cru et qui ont personnellement reçu Jésus et qui ont mis en œuvre le don qu'il avait placé dans leur vie. Bon, c'est la parabole. Qu'est-ce que j'ai à retirer de ça? Comment je peux appliquer cette parabole-là? En quoi la parabole des mines me concerne, nous concerne aujourd'hui? J'aimerais en tirer quatre vérités essentielles. Premièrement, le royaume glorieux du Messie est encore futur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Je vais être rejeté d'Israël, je vais aller être investi de l'autorité royale, puis je vais revenir, puis ça va être dans le futur. Le royaume millénaire terrestre que le peuple juif attendait ne s'est pas matérialisé à la première venue de Jésus. ce royaume millénaire terrestre avec Jésus qui siège sur le trône de David à Jérusalem, il est encore à venir. Il approche, mais il est encore à venir. Jésus va revenir. Et Jésus va revenir pour établir la paix à Jérusalem et va venir pour établir la paix sur toute la terre. C'est encore à venir. Je ne vous apprends rien. Jésus n'est pas à Jérusalem sur le trône, mais il s'en vient. Il revient bientôt. La Bible parle qu'il y a une dimension présente du royaume de Dieu et que cette dimension présente est plutôt dans les cœurs de ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui se sont convertis sont dès maintenant des fils du royaume. Et plus tard, ils vont partager la gloire de ce royaume millénaire avec Jésus. Jésus peut être mon roi aujourd'hui. Et j'espère que Jésus est ton roi aujourd'hui. Que tu peux chanter « Règne en moi, Dieu puissant, règne en moi ». Que tu peux dire « Nous faisons partie de l'armée du roi ». Puis avec le roi des rois, on avance. Parce que c'est possible d'avoir Jésus comme roi aujourd'hui, puis de faire partie du royaume de Dieu qui est dans les cœurs, parce que Jésus est maître et roi dans ma vie. Mais ce royaume terrestre, millénaire, est encore à venir. Il arrivera bientôt. Deuxième vérité essentielle que je comprends de la parabole, c'est que Jésus avait prédit à l'avance son rejet par Israël et son ascension au ciel, à la droite du Père. Jésus avait prédit non pas qu'Israël le recevrait comme Messie et roi, mais plutôt qu'il serait rejeté de la nation, qu'il serait crucifié, qu'il ressusciterait le troisième jour, puis qu'il allait être investi de l'autorité royale. Il allait revenir étant investi de l'autorité royale. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 11 nous explique comment Jésus s'est humilié et comment Dieu l'a souverainement élevé maintenant au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ maintenant est Seigneur à la gloire du Père. On pourrait tourner dans Hébreux chapitre 2, verset 9, et on verrait la même chose que ce Jésus qui a été humilié, qui est descendu. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Jésus sur la terre a reçu comme couronne une simple couronne d'épines, et il est parti au ciel, il est maintenant assis à la droite de Dieu, et il est maintenant couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, et comme roi des rois, seigneur des seigneurs, il va redescendre et il va venir régner sur la terre. Avec ses serviteurs, il va venir juger le monde, il va venir demander des comptes à ses serviteurs ici-bas. Troisième vérité essentielle que je vois, c'est que Jésus a déterminé les rôles de ses disciples dans l'intervalle entre son ascension et son retour. Les disciples de Jésus, les serviteurs de Jésus, on n'a pas à rester sans direction. Dieu nous a déterminé des rôles. Et Jésus a appelé tous les êtres humains à le servir en plaçant à leur disposition les ressources essentielles à la vie abondante, les ressources essentielles à ce que la vie soit productive pour le royaume de Dieu. À tous les hommes de la terre, Jésus a offert le salut sur la base de la rédemption. Jésus a payé à la croix pour tous les hommes et il l'offre, il place à la disposition des gens cette mine-là. Il place le salut, la rédemption, pour que les hommes puissent marcher avec la paix dans le cœur, dans le fait de savoir que j'ai mes péchés pardonnés puis j'ai la liberté de vivre pour Dieu sans étant toujours accroché avec mes péchés passés. Dieu place devant le cœur de tous les hommes ce salut sur la base de sa rédemption. Il a payé pour tous. Dieu place comme provision la présence de l'Esprit, celui qui va accueillir cette mine-là, qui va la prendre, qui va la goûter, qui va la vivre. Il va réaliser que l'Esprit de Dieu est dans sa vie pour l'encourager, pour l'équiper, pour le fortifier, pour l'illuminer. Dans cette mine, Dieu donne la parole de Dieu pour instruire ses serviteurs, pour les convaincre, pour les diriger. Dans cette mine-là de trésors, il a promis d'être attentif à nos prières, d'écouter nos cris. Et il a promis aussi de nous donner du courage, de la solidarité à travers la communion fraternelle, à travers l'Église locale. Ce sont toutes des choses qui sont dans la mine, que Dieu place à la disposition des serviteurs toutes ces ressources essentielles à la vie abondante, à la vie productive dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit, « Je le place devant toi. » Et je m'attends de toi que tu saisisses ça, que tu le prennes pour ta vie, que tu fasses valoir toutes ces ressources que j'ai mises à ta disposition. Il nous a donné la responsabilité de s'approprier cette mine-là pour nos vies et de l'utiliser, ce qu'il a chèrement acquis pour nous. Pas juste de prendre ça puis mettre ça à côté, pas l'assimiler, pas le prendre, pas l'accueillir. Et la quatrième règle que je vois, non seulement Dieu nous a donné des rôles en mettant à notre disposition toutes les belles choses pour la vie abondante et productive du royaume, mais il nous a dit que face à ces dispositions qu'il avait données, tous n'auraient pas la même rétribution. Jésus va nous demander des comptes sur l'administration de ces mines, sur l'administration des biens qu'il a mis à notre portée. Et quand il va nous faire rencontrer des comptes, certains vont manifester être de vrais disciples du Seigneur. Certains vont se manifester étant de ces personnes qui se sont appropriées tout ce que Jésus avait à offrir, qui l'ont utilisé avec joie, qui l'ont utilisé avec foi, qui ont utilisé toutes les ressources que Dieu avait mis à leur disposition, ils ont foncé avec, ils ont eu du courage, ils ont eu de l'audace, ils ont été fidèles avec toutes les ressources que Dieu avait mis avec leur disposition. Et quand Jésus va revenir, il va leur dire, félicitations, j'avais mis des petites choses dans tes mains, mais tu as foncé avec, tu l'as pris puis tu as avancé avec courage, avec audace. Tu as compris que la grâce de Dieu à ton égard exigeait la responsabilité de ta part, que ce que je mettais entre tes mains exigeait la consécration de ta part. Alors tu as développé les dons que j'avais mis à ta disposition, tu as développé les talents que j'avais investis en toi. Et pour ces gens-là, Jésus va répéter à plusieurs reprises, présentement comme il le fait dans Luc chapitre 6, versets 22, 23, 35, dans Matthieu, « Grand sera ta récompense. Grande sera ta récompense. » Parce que tu as pris la mine, puis tu as foncé avec. Tu as utilisé tout ce que Dieu avait mis à ta disposition pour avancer puis faire progresser le royaume de Dieu. Bon et fidèle serviteur, je vais t'en donner encore plus. Ta récompense va être au-delà de toute espérance que tu pouvais avoir. D'autres, par exemple, ils vont se présenter. Ils vont penser qu'ils étaient de vrais serviteurs. Mais ils vont se présenter devant Dieu s'étant trompés eux-mêmes. Des gens qui se pensaient en sécurité parce qu'ils savaient que Jésus était mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Et ils pensaient peut-être que la simple connaissance intellectuelle de Jésus, ils pensaient peut-être que la simple profession de la foi leur vaudrait le salut à la fin du voyage. Puis ils se sont royalement trompés. Jésus est mort pour tous, on va au ciel. Hein? Jésus est mort pour les péchés du monde entier, on va au ciel. Je sais ça, moi. Ce que tu dis, je le crois. Je sais ça. Ces gens-là ont enveloppé soigneusement tout ce que Dieu leur avait offert, ont enveloppé soigneusement leur mine et l'ont remise en sécurité, se croyant en règle avec Dieu sans aucune responsabilité, sans aucune redevabilité envers l'investissement que le maître avait présenté. Ils ont fait attention de ne pas faire de gros péchés, mais ils n'ont rien fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Voyez-vous, une grâce qui nous est offerte, une grâce qui nous est disponible, une grâce que l'on, après ça, s'approprie, puis qu'on utilise, ça augmente notre réceptivité en vue de d'autres grâces. Ça augmente notre capacité de recevoir davantage. Ça augmente notre capacité à s'approprier d'autres grâces. Mais les grâces qui sont placées devant moi, puis que je ne m'approprie pas, que je n'utilise pas, ils diminuent notre habilité à en recevoir de nouvelles. Voyez-vous le problème avec le livre des Hébreux, pas le problème, quand on regarde l'épître aux Hébreux, le problème de ce groupe de personnes-là était justement ça. Des gens, ils savaient des choses, ils n'avançaient pas selon ce qu'ils savaient et par conséquent n'avaient pas goûté au salut. Ou comme l'auteur dit dans Hébreux 5, 11 et 12, vous êtes devenus lents à comprendre parce que ce qui était à votre disposition, vous ne l'avez pas acquis pour le digérer, pour apprendre à discerner le bien et le mal, pour avancer pour la gloire de Dieu. Vous l'avez laissé là, puis en le laissant là, vous perdez votre capacité d'accueillir davantage, de vous servir davantage des grâces de Dieu. Voyez-vous, Christ a payé pour le salut de tous les hommes. Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a offert le salut à tous les hommes. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est mort pour tous les hommes. La mine est disponible pour tous les hommes. Mais seuls ceux qui se l'approprient, seuls ceux qui l'assimilent, le possèdent vraiment, ce salut-là. Et seuls ceux qui l'assimilent et se l'approprient peuvent jouir des bénéfices du salut. Le salut, il est suffisant pour tous, mais il est efficace pour les croyants seulement. Alors, ce qui va arriver au jugement, des gens qui se sont trompés royalement vont dire à Dieu, « Seigneur, j'ai rien fait de mal. Je n'ai pas tué personne. Je n'ai pas volé personne. Je ne voulais rien faire pour te déplaire. Mais je n'ai rien fait pour te plaire non plus. » Puis même si j'avais fait quelque chose, tu n'aurais probablement pas été content. Parce que Dieu, tu es un maître dur, tu sais. Parce que tu es même injuste. Parce que tu ne veux pas me laisser vivre à ma manière. Tu ne veux pas me laisser faire ce que je veux faire, ce que moi je veux. Ces gens-là se seront réellement trompés. La Bible est claire. La foi, sans les œuvres, est morte en elle-même. Ce méchant serviteur de la parabole est un faux disciple, un chrétien de nom seulement, un chrétien dont la marche ne correspond pas avec la profession de sa foi, une personne qui ne manifeste pas l'amour, le respect, l'honneur pour Jésus, une personne qui a peut-être même une fausse assurance, qui croit avoir son billet pour le ciel, bien que ce billet-là soit bien enveloppé sans avoir à vivre une vie qui honore le Sauveur. Et Dieu dit qu'il va juger ses serviteurs inutiles. Comment est-ce qu'il va les juger? Il va d'abord retirer la grâce de Dieu qui était placée à leur disposition. Ils n'auront plus d'accès à ça. Retirer la grâce de Dieu qui ne s'était pas appropriée. Et tout ce qui va leur rester, c'est la honte, la privation du salut pour l'éternité. Toute la belle apparence va disparaître, le masque va tomber, puis va être identifié, ce faux serviteur, ce faux disciple, comme étant un méchant serviteur, comme étant un serviteur inutile, inutile qui va avoir part dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. La Bible parle dans Matthieu chapitre 25 de la parabole des talents, qui est une parabole qui est vraiment parallèle. Et c'est clair pour ce serviteur inutile-là, sa fin. Il est jeté dans les ténèbres du dehors. Les serviteurs inutiles sont placés avec les ennemis de Jésus, avec ceux qui se sont ouvertement présentés contre Jésus. Cette parabole-là, est pas facile, dans un sens, n'est pas facile, elle est dure. Parce que j'aimerais ça qu'il y ait trois catégories dans Dieu. Les personnes engagées pour Dieu, puis les rebelles contre Dieu. Ça, c'est fun. Les personnes engagées, ah oui, vont être avec Dieu, puis Dieu va les aider, puis va les dire, bon, fidèles serviteurs. Ah, ça, c'est des vrais spirituels. Puis il y a des gens qui, c'est clair, qui iront pas au ciel, ils maudissent Jésus, puis ils ne veulent pas vivre pour lui. Mais on aimerait donc ça, avoir une troisième catégorie. Juste de chrétiens qui sont sûrs d'aller au ciel, qui ont la mine, mais qui n'ont pas besoin de marcher, qui n'ont pas besoin de faire valoir ce que Dieu a placé dans leurs mains. Ils veulent continuer à vivre comme ils veulent vivre. Ils ne veulent rien faire de mal contre Dieu. Ils ne veulent pas faire des gros péchés. Ils ne veulent pas sacrer après Dieu, mais ils veulent vivre leur vie pour eux autres mêmes. Et puis ils prennent la mine, puis tout ce que Dieu offre. Le salut, les richesses, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, les prières, la communion fraternelle, puis on met ça en terre, on l'enveloppe, puis on continue à vivre avec notre propre vie comme si Dieu n'existait pas. Puis là, on va arriver au ciel, puis on va dire, « Seigneur, C'était dur de vivre la vie chrétienne, tu sais. Fait que j'ai rien fait de mal. Jésus va dire, ben, ce que j'avais mis à ta disposition, l'as-tu fait valoir? Ah, ben, valoir, là, c'est une autre affaire. C'est dur, tu sais. Toi, tu récoltes là où t'as pas semé, puis, tu sais. Mais t'as-tu pris des risques? T'as-tu foncé avec ce que j'avais? T'as-tu essayé d'avancer, puis de vivre pour Dieu, puis de faire avancer le royaume de Dieu? T'as-tu mis des pas en avant? Puis on va dire non. Je pensais que j'étais correct avec mon billet pour le ciel que j'avais enveloppé, puis que j'avais mis dans mon tiroir, pour que quand les jours mauvais arriveraient, je tirerais le tiroir, puis je sortirais ma mine. Puis je dis, regarde Seigneur, lave-la ta mine. Je rentre au ciel, hein? Jésus est venu sur terre pour payer la rédemption de nos péchés. Il s'est offert pour devenir notre sauveur, notre maître et notre roi. C'est vrai que plusieurs le rejettent ouvertement. C'est vrai que d'autres lui sont entièrement fidèles. Mais le danger, c'est pour ceux qui demeurent indifférents avec la mine. Où es-tu dans la parabole de la mine? Parce que Jésus va revenir bientôt. Et Jésus va nous demander des comptes, dans ma vie comme dans la vôtre, de comment j'ai fait valoir la mine. Comment j'ai fait valoir les dons, les talents, la place qu'il m'a donnée ici. Son salut qu'il m'a présenté. Et il va venir établir son royaume sur la terre. Et il y aura une récompense merveilleuse pour ceux qui ont marché avec lui. Entre-temps, il demande à ses serviteurs de faire fructifier les ressources qu'il a placées à notre disposition pour l'avancement du royaume. Et il nous a laissé un commandement très simple. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Reste préoccupez-vous-en pas trop. Toutes ces choses vous sont données en plus. Samuel de Champlain était un huguenot de France qui est devenu le fondateur de Québec il y a près de 400 ans. Samuel de Champlain était un évangélique, était un huguenot, il avait une foi évangélique. Il y avait une noble devise que je vous invite à prendre pour votre propre devise. Sa devise, c'était « Don de Dieu ferez valoir ». La devise de Champlain est devenue la devise de la ville de Québec. 400 ans plus tard, mon souhait, c'est que les croyants de Québec aussi, héritiers spirituels de cette foi évangélique, puissent eux aussi répondre à l'appel de leur Sauveur, qu'il dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Et que ces croyants-là de Québec disent comme Champlain « Don de Dieu ferez valoir ». Puissons-nous être trouvés fidèles. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné. Tu as placé devant nous une table remplie de mets succulents, de dons formidables. Seigneur Dieu, donne-nous de réaliser notre responsabilité de nous approprier ces dons, de les utiliser, de les faire valoir. Parce qu'en réalité, ton jugement ne se portera pas vraisemblablement sur les péchés que nous aurons faits, mais sur la grâce que nous n'aurons pas utilisée. Tu as payé pour tous les hommes déjà. Et beaucoup d'êtres humains ne saisissent pas la grâce qui est déjà payée d'avance. Et pour nous qui te connaissons, qui sommes sauvés, qui avons saisi la grâce du salut avec l'Esprit de Dieu, avec ta parole, Seigneur Dieu, donne-nous d'avancer avec, de risquer pour le royaume de Dieu, d'être fidèle et courageux et audacieux avec ce que tu as placé dans nos vies pour l'avancement de ton règne. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons nonchalants ou paresseux. Tu es digne de recevoir louange et honneur et tu as promis de récompenser royalement ceux qui s'attachent et vivent pour toi et te servent fidèlement. Rends-nous fidèles, Seigneur, pour ta gloire, pour notre bonheur. Au nom de Jésus. Amen.
vous invite à vous lever avec moi pour notre dernier chant ce matin. C'est numéro 389. Chant victorieux.
Chaque jour je te